Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous aviez toujours voulu le savoir, mais vous n'osiez pas le demander. Dans une heure pourtant, vous ne vous demanderez plus si c'est une bonne idée ou non de mettre la ville à la campagne.
Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et ce phénomène se produira grâce à Lise Combe, Cyril Marchand, Didier Pinault, Laurence Genepin, Aloïse Guérin et Florent Bujon. Si on n'aime pas la ville et si on n'aime pas la montagne, on peut toujours aller se faire voir, pour le dire à peine moins vulgairement que Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle. Mais si on aime la ville et qu'on aime aussi la campagne, on peut toujours se faire construire un pavillon dans ce qu'on appelle le périurbain, cet espace accusé à la fois de laideur insigne et d'irresponsabilité écologique, mais qui incarne aussi l'espoir de propriété et de jardinage pour nombre de Français. Nous revenons aujourd'hui à la case départ de ce que représentent ces lieux, de leur histoire et de ce qu'ils disent de nos façons de penser. Et pour ce faire, nous sommes d'abord à distance avec vous, Jean-Marc Stébé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, l'auteur du « Que sais-je, la France périurbaine » que vous avez publié en 2018 avec Hervé Marchal, le même avec qui vous aviez déjà publié le « Que sais-je, sociologie urbaine » et puis on vous doit aussi celui consacré au logement social en France. Et avec vous, on aimerait bien tenter de circonscrire un petit peu ce territoire qu'on appelle le périurbain, que les sociologues ont peut-être longtemps ignoré et qui est en réalité assez difficile à définir. C'est forcément un concept qui est un peu à la croisée de deux mondes, mi-ville, mi-campagne. Comment est-ce qu'on peut essayer déjà de donner une première idée de la difficulté qu'on a à caractériser cet endroit, ces lieux-là ?
Oui, effectivement, on a... Les géographes, les sociologues et l'INSEE, l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques, ont quelques difficultés à définir ce territoire. Il a été longtemps ignoré, et c'est seulement depuis les années 70 qu'il est pris en compte dans les calculs de l'INSEE. On peut dire que, de façon assez générale, on a une ville-centre, globalement à peu près, bien circonscrit, et puis autour on a une banlieue, c'est-à-dire des communes qui touchent cette ville-centre. Et au-delà de cette banlieue, nous avons les couronnes périurbaines.
Donc on est dans la banlieue de la banlieue, alors ?
On est dans la banlieue de la banlieue, on est dans la périphérie de la banlieue, si on peut dire cela. Et ville-centre plus banlieue, ça représente ce qu'on appelle les pôles urbains. Et ville-centre plus banlieue plus périurbain représente, en termes de l'INSEE, ce qu'on appelle dernièrement les aires urbaines et qu'aujourd'hui on appelle les aires d'attraction d'une ville. Et dans ces aires d'attraction d'une ville, il y a 93%, les dernières statistiques de l'INSEE, 93% de la population métropolitaine, c'est-à-dire en dehors des territoires ultramarins, qui habitent ces zones-là. Donc vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de rural, de population rurale en France.
Mais comment est-ce qu'on fait la différence entre ce qui relève de la banlieue, ce qui relève du périurbain et ce qui relève de la campagne, de la ruralité, avec aussi des villages ?
Bien sûr. Alors, pour aller rapidement, on peut dire que le périurbain, c'est la zone au-delà des banlieues, ça c'est on l'a bien dit. Aujourd'hui, on peut dire que la définition donnée par l'INSEE, c'est 40% de la population active qui travaille dans ce pôle urbain qui travaille dans la ville-centre, la banlieue et la couronne périurbaine.
Mmh. Voilà. En studio...
C'est comme ça là qu'on définit de façon assez technique. Voilà.
Bien sûr. En studio, Aurélien Bélanger est là aussi. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de plusieurs romans publiés chez Gallimard, dont certains ont des titres d'essais d'urbanisme. Le Grand Paris, en 2017, L'aménagement du territoire, en 2014. On vous doit aussi des romans sur des entrepreneurs, comme La théorie de l'information ou le dernier télé-réalité inspiré de la vie de Stéphane Courbit. Au fond, c'est l'histoire de la modernité que vous explorez, la modernité des moyens de communication, mais aussi la modernité du territoire. Et le périurbain, c'est peut-être un petit peu ça.
Oui, bah, le périurbain, moi, c'est, à titre personnel, c'est quelque chose que j'ai bien connu, parce que j'ai grandi dedans, né à la campagne et parti vivre comme ça dans une zone périurbaine en banlieue sud. Et c'est le lieu...
De Paris.
En banlieue sud de Paris, en Essonne, exactement. Et c'est à la fois le lieu où la modernité est très présente, parce qu'on voit des grandes autoroutes, on voit des aéroports, on voit de la lumière, on voit quelque chose. Et en même temps, c'est pas vraiment la ville. Et ça a longtemps été un non-lieu. Donc on parle de périurbain maintenant, c'est relativement récent. Donc c'est à la fois un lieu où la modernité est flagrante. On a vraiment l'impression, quand on grandit dans le périurbain, quand on l'explore, d'être un enfant de la marchandise, de n'avoir sous les lieux que des choses artificielles, que plus rien n'a d'authenticité, comme peut avoir finalement la même authenticité le centre-ville et la place de village.
Vous ressentiez ça enfant?
Bah, quand les pôles d'attraction, je le ressentais enfant, les pôles d'attraction, par exemple, moi, c'est mon pôle d'attraction principal, c'était l'Agora d'Evry. L'Agora d'Evry, ça a un nom un peu prestigieux, philosophique, grec. Et c'était une sorte de mélange entre un centre commercial où il y avait des ficus géants sous des cataractes un petit peu plastifiés, il y avait des escalators, il y avait des gineries qui étaient un lieu d'extrême authenticité parce qu'il y avait du bois vieilli, mais on sait très bien que ce bois vieilli était posé sur des parpaings. Et puis c'était le centre d'une ville qui n'avait pas de centre, parce qu'Evry fait partie donc de ces villes nouvelles qui étaient justement censées bloquer un peu le périurbain, cerner Paris. Et d'un coup, c'est les endroits où on allait, c'est les endroits où toute une frange de la population a grandi, parce que le périurbain, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est très périphérique, mais c'est aussi le plus grand quartier aujourd'hui. Le plus grand quartier des villes, c'est leur périphérie extrême, c'est là où se concentre le plus d'habitants.
Alors vous avez été longtemps chroniqueur ici à France Culture dans les matins. En 2017-2018, vous avez publié ce recueil de vos chroniques qui s'appelle La France, et donc vous y parlez justement de ces franges de villes qui vous intéressent, qui semblent vous fasciner aussi, et auxquelles vous trouvez, on le sent, une très grande poésie.
Ben, j'ai souvenir, oui, par exemple, d'être allé sur la terrasse du château d'Écouen. Donc, au château d'Écouen, on est au nord de Paris. On doit être à 20-25 kilomètres de Paris, du côté de Sarcelles. Enfin, on est loin derrière la ville. C'est l'endroit où, d'un coup, tout se dessert. Et qu'est-ce qu'on voit au loin? Des collines. Ces collines, en fait, c'est des gravats qui se sont accumulés. C'est d'anciennes décharges à ordures. On voit des avions qui circulent parce qu'on voit Roissy au loin. On voit les grands entrepôts des grandes aérogares de Roissy. La totalité du paysage est humanisée, artificialisée, et d'un coup, moi j'aime beaucoup la géographie parce que c'est cette espèce de mélange très très compliqué à cerner entre l'humain et le paysage, entre l'humain et le naturel, cette espèce d'hybridation terminale qui définit notre monde. Rien de ce que nous voyons va être totalement humain, et pourtant tout est humain. Voilà cette espèce de sublime post-industriel. Donc j'aime beaucoup ces espaces qui sont d'une extrême franchise, et au début, effectivement, spontanément, on a tendance à les détester. On n'aime pas les centres commerciaux, on n'aime pas les zones où il y a que des hangars. On s'est moqué de la laideur des entrées de ville, etc. Et au bout d'un moment, on se rend compte que ça exprime, je sais pas si c'est de la beauté, mais ça exprime de façon tellement franche ce que c'est que notre civilisation à l'ère des flux logistiques, de la mondialisation et des commandes à travers le monde. Bon, bah, c'est là que les choses arrivent. Moi, les endroits où j'allais faire du VTT enfant, qui étaient encore des champs, aujourd'hui, quand je passe à côté au bord de l'autoroute A6, c'est des immenses entrepôts qui ne peuvent a priori être que des entrepôts pour des groupes comme Amazon. Et cette espèce de communication par-dessus le néant, qui étaient ces espèces de champs de betteraves, avec l'autre bout du monde, les usines de l'autre bout du monde, a quand même quelque chose de fascinant.
En fait, Jean-Marc Stébé, on a le sentiment que le périurbain nous permet de voir l'infrastructure du monde d'aujourd'hui, un peu comme Aurélien Bélanger exprime le fait que c'est la grande modernité qu'on voit à travers, quand on traverse le périurbain, c'est aussi les infrastructures de la mondialisation.
Oui, effectivement, je suis totalement d'accord pour dire que le périurbain, très souvent, on l'essentialise et on a l'impression que c'est une zone moche avec des entrepôts, des centres commerciaux et des pavillonnaires, des lotissements pavillonnaires. Mais en fait, c'est une diversité. C'est ça qui est très important à bien noter, c'est que le périurbain, c'est autant du rural que Aurélien Bélanger le disait très bien, c'est autant du rural que de l'urbain. C'est autant de la matérialité que de l'humain. Et simplement le périurbain parisien, par exemple, c'est 600 communes rurales de moins de 2000 habitants. Donc c'est du rural, hein, parce qu'une ville, c'est au-delà de 2000 habitants. Ces 600 communes côtoient des unités urbaines de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, comme Meaux, Fontainebleau, Étampes, etc. Donc c'est un mélange de communes diverses et variées, c'est un mélange de populations et c'est un mélange d'infrastructures, de superstructures, d'autoroutes, de routes, de chemins, de forêts, etc.
Alors cette envie de vivre à la campagne, mais en même temps pas tellement loin des commodités, à quand remonte-t-elle, Jean-Marc Stébé? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au 19e siècle? Est-ce qu'on peut remonter encore un peu plus haut?
On peut voir que les grands historiens ont bien montré qu'à partir du XVIIIe siècle, médecins proposaient aux familles aristocratiques de se mettre au vert lorsqu'ils avaient des problèmes de santé ou des retours de couches, etc. Donc ça remonte, et il y a toute une mode due certainement à Rousseau et autres qui ont montrer que au-delà de la ville, il y avait des espaces de santé verdoyants, etc. Et à partir du 19e siècle, c'est l'engouement de la bourgeoisie pour la maison individuelle environnée de nature, et on se fait construire des folies et à quelques encablures de la ville. Et on peut dire que le premier mouvement pavillonnaire remonte à la fin du 19e siècle, où les industries sont obligées de s'extraire de la centralité urbaine pour aller s'installer loin de la ville. On a l'exemple, par exemple, du chocolat Meunier, qui est installé au centre de Paris et qui est obligé de s'installer au milieu la deuxième partie du 19e siècle, à Noisiel, là où se trouve Euro Disney aujourd'hui. Les ouvriers suivent les ouvriers du chocolatier, qui n'était pas chocolatier, qui était plutôt pharmacien, vont suivre
le déménagement de l'usine.
Le déménagement de cette entreprise.
Alors qu'on le verra tout à l'heure, c'est plutôt les mouvements pendulaires aujourd'hui qu'on critique avec le périurbain, parce que beaucoup de gens qui y vivent travaillent dans le centre des villes. Aurélien Bélanger.
Oui, cette histoire des folies est vraiment passionnante, parce qu'on a l'impression comme ça, donc on voit, je pense au château de Méréville en Essonne, voilà, quand on va loin de Paris, on découvre ces espèces de bizarreries qui sont ces espèces de, comme des proto-pavillons, bon, des pavillons énormes faits par des gens très fortunés, et qui sont déjà quelque chose de fantaisie, et qui inverse aussi un rapport au temps, parce que il y a l'idée que plus on va à la campagne, plus on s'éloigne de la ville, et là, c'est comme si la ville se répétait, fragmentée, etc. Et ça a quelque chose de très, bon, et ça fait penser aussi au hameau de la Reine, qui a quelque chose, c'est aussi le premier lotissement pavillonnaire, parce qu'on est, ça ressemble à ces espèces de lotissements néo-briards qu'on a construits, par exemple, autour de Disneyland. C'est volontairement un pastiche de quelque chose d'ancien, et en même temps, c'est très moderne dans l'approche. Donc voilà, il y a ces objets qui sont très, très singuliers.
Donc dans le périurbain, Aurélien Bélanger, il y a toujours un petit peu ce choc des temporalités. On ne sait pas très bien si on est dans l'hypermoderne ou si on est dans une nostalgie, justement, d'une France rurale.
C'est exactement ça. On est censé, enfin, ce qui me semble caractéristique de ça, c'est l'histoire de Baudelaire. On sait que Baudelaire déménageait tout le temps dans le centre de Paris, n'a jamais réussi à quitter Paris. Et l'une des explications à ça, me semble-t-il, c'est que son père, Baudelaire, en fait, est un enfant du XVIIIe siècle par son père, parce que son père l'a eu très vieux, et son père dessinait des fêtes galantes. Donc voilà, c'est comme s'il était resté prisonnier d'une ville et qu'il pouvait de toute façon pas quitter Paris, parce que Paris l'encerclait. Et cet encerclement, cette espèce de chose, dans les parcs des Folies, on dessine des ruines. Donc en fait, c'est comme si on fabriquait un temps révolu, et c'est comme si on fabriquait un temps cyclique. Ça me rappelle ces espèces de pavage du plan un petit peu fou dans les jeux comme SimCity ou comme Civilization. On pense s'éloigner et ça va recommencer. Et rapidement, on arrive à ce paradoxe connu que vous nous soulignez tout à l'heure, c'est qu'il n'y a plus de campagne en fait. La ville a gagné. Et la campagne, voilà, la campagne va exister presque sous forme artificielle.
Pourtant, on va voir qu'il y a quand même encore une diagonale du vide en France. Jean-Marc Stébé, vous êtes aussi spécialiste des habitations à loyer modéré, des grands ensembles. Est-ce que, parce qu'on a tendance à penser que le périurbain, c'est quand même le pavillonnaire, est-ce que les grands ensembles, c'est aussi du périurbain ?
Non, juste après la Seconde Guerre mondiale, on va construire des grands ensembles, des zones à urbaniser en priorité. C'est un nouveau modèle urbanistique, hein, c'est le mouvement moderne en architecture, hein, développé par des architectes comme Le Corbusier, Mallet Stevens et autres, qui vont proposer à l'État français ce modèle d'habitation qui remet en cause complètement la ville, parce que le modèle de la modernité, c'est de construire en hauteur pour dégager de l'espace au sol. Et c'est une remise en cause, notamment de la rue. Le Corbusier était opposé complètement à la rue.
Il faisait des rues à l'intérieur des immeubles.
C'est ça, tout à fait. Et donc, on va construire sur les périphéries immédiates des villes. Alors peut-être, bien sûr, qu'on a aujourd'hui dans le périurbain des zones à urbaniser en priorité assez éloignées de Paris, par exemple. Mais globalement, les grands ensembles se trouvent dans les banlieues.
Alors, il y a un certain nombre de termes qu'il faut aussi définir pour ce premier tour d'horizon de ce que c'est que le périurbain. C'est exurbanisation, tiers-espace, rurbanisation. On a déjà fait la différence entre le périurbain et la banlieue avec vous, Jean-Marc Stébé. Rurbanisation, qu'est-ce que c'est que ce barbarisme ?
Oui, alors bon, c'est dans les années 60, un certain nombre de géographes ont proposé ce néologisme de rural et urbanisation, fait à partir de deux termes, rural et urbanisation, et c'est plutôt pour évoquer un mouvement de construction de pavillons dans le monde rural. Et c'est pas du tout un phénomène dynamique, c'est simplement un phénomène de paysage, la rurbanisation. C'est pour ça qu'il n'est plus utilisé aujourd'hui.
Et l'exurbanisation, alors, qu'est-ce que c'est ?
Ben, l'exurbanisation, c'est un terme qui a été utilisé aussi, qui apparaît à la fin des années 80. C'est l'extension des limites d'une agglomération périurbaine. C'est-à-dire que ça va ça continue. C'est-à-dire, on parle de front urbain chez les géographes, et donc on peut dire qu'aujourd'hui le front urbain se déplace encore vers le rural. Et
c'est la guerre alors, hein, si c'est le front qui se déplace.
Bien sûr, c'est la guerre. Le rural essaye de résister. Et les mouvements écologistes et de développement durable essaient de freiner. Aujourd'hui, dans les communautés de communes et autres, on essaie de freiner justement ce front urbain pour qu'il reste circonscrit.
Alors le tiers-espace, c'est la tentative par un géographe, Martin Vanier, de proposer une notion qui soit un petit peu plus valorisante que exurbanisation, rurbanisation, banlieue, etc. On va rentrer un peu plus encore dans le vif du sujet juste après ce reportage.
Alors on est en bordure d'un centre commercial et là c'est l'entrée du village, Village Expo comme ils appellent. On va voir ça ?
Oui, puisque c'est votre choix.
Effectivement, ça ressemble à un petit village. On a toutes sortes de maisons. Et, bon, elles se ressemblent quand même plus ou moins toutes. Hein.
Bah écoutez, je crois que c'est un témoignage supplémentaire. Malheureusement, de la médiocrité générale, en témoignent les zones pavillonnaires en France. C'est, je dirais, l'empire des néos. C'est le néo-breton en Bretagne, le néo-charentais en Charente, le néo-basque.
La maison voilà. Là en face en pierre, ce serait pas du néo-breton, justement ?
Non ? Oh, bah oui, ça tombe bien, puisqu'on est en plein au sud de Paris, en Essonne, donc.
Ça peut sembler un peu élitiste, ce que vous dites, parce qu'après tout, c'est aussi, ça peut être le rêve d'une famille que de s'acheter une maison individuelle. Vous vous dites, c'est la négation de l'architecture ici.
La maison individuelle, en tant qu'aspiration, pourquoi pas ? Mais beaucoup aujourd'hui militent pour arrêter l'étalement urbain qui dénature les paysages, qui augmente l'usage de la voiture. Enfin, c'est une véritable catastrophe. il faudrait que toute maison puisse être faite par un architecte.
Vous la trouvez moche, pour dire les choses clairement, cette maison-là ?
Ah oui, tout à fait, oui. Ça va très bien avec les centres commerciaux qui sont des boîtes à chaussures, les hôtels bas de gamme qui ont réalisé, encore une fois par une logique foncière et affairiste, leur modèle absolument partout. Ça va très bien avec des buffalo ceci, des buffalo cela, enfin, etc.
C'est uniformément laid pour vous.
Voilà, tout à fait. C'est irrecevable parce que c'est une négation d'une intervention culturelle sur la ville.
Culture et vous écoutez sans oser le demander. Et en l'occurrence, un reportage qui est une archive de 2010, reportage de Dorothée Barba avec le président de la Maison de l'Architecture en Ile-de-France, Michel Perrault. Nous sommes nous avec Jean-Marc Stébé et Aurélien Bélanger. Le pavillon, Aurélien Bélanger, c'est une esthétique aussi que vous pouvez apprécier.
Bah, il se trouve que l'inventeur du pavillon moderne, qui est le promoteur Levitt, qui a inventé la fabrication industrielle des maisons, comme on fabriquait les Ford, en fait, c'est-à-dire qu'on va couler toutes les dalles en béton, on va faire toutes les salles de bain en béton, etc.
Donc ça se passe en France, l'invention du pavillon.
Il a fait quatre grands projets en France. Il opérait dans la région de New York, il a construit plusieurs centaines de milliers de pavillons, et il opérait en France. Et l'une des zones dans laquelle il a opéré en Essonne, c'est celle où j'ai grandi, donc que je connais très très bien. Donc j'ai à la fois vu son apogée dans les années 80, exactement, ouais. et sa chute. Et donc, ce qui est amusant, c'est que l'ancien... Donc effectivement, c'est une architecture. Alors les maisons avaient 5 ou 6 types, avaient des noms de châteaux. Ma maison, c'était une Amboise, donc avait des noms de châteaux de la Loire. Donc
elle ressemblait pas à quoi, votre maison ?
Elle avait un toit un peu évasé. Elle avait une petite colonnade. Donc il y avait des tentatives de bow window. Les maisons plus chères avaient des bow window. La mienne avait un petit côté, une sorte de colonnade sudiste.
Donc rien à voir avec Amboise.
Rien à voir avec Amboise. Il y avait des petits détails quand même urbanistiques. C'était assez bien fait. Par exemple, les maisons qui étaient dans l'axe des rues, elles avaient toutes des toits en ardoise rouge, et les maisons qui étaient dans l'axe des rues avaient un toit en ardoise vert, qui n'était pas, sans rappeler, je pense, le toit vert qu'on voyait depuis l'autoroute, le toit de la cathédrale de Chartres. Je pense qu'il y avait, voilà, il y avait ces espèces de significations.
Donc il y avait de l'architecture dans ces...
Je sais pas, il y avait de l'architecture, en tout cas, sur un point, parce que je l'ai exploré à vélo, j'ai fait plus de 1000 km de vélo, comme ça, de façon obsessionnelle, entre ma 10e et ma 12e année. C'est dans le dessin, parce que c'est des espèces de façons qu'on voit dans les vues aériennes de replier, de densifier la ville, en ménageant des jardins, en mettant des espaces verts. Ça ressemblait, je sais pas, à des plantes vénéneuses, etc. Et encore, mentalement, aujourd'hui, je suis capable de redessiner ces choses. Donc là, il y a eu quelque chose, je sais pas si c'est bien ou mal. Là, en termes d'urbanisme, ces façons dont ces espèces d'impasses se repliaient pour fabriquer de la densité et de l'espace n'étaient pas loin d'être fascinantes.
Enfin, en tout cas, vous, en tant qu'enfant, et ensuite plus tard, vous aimiez vivre là. Et
c'est compliqué. En tant qu'enfant, c'est super. À l'adolescence, rejet de tout le monde. Tout le monde trouve ça dégradant d'habiter là.
Et sauf les parents, quand même.
Sauf les parents. Mais cette espèce. Donc c'est quand même une architecture que la plupart de mes amis l'ont détestée à 13-14 ans. On l'a tous détestée.
Pourquoi vous trouviez ça dégradant?
Je pense que l'une des raisons, c'est la question des communs. C'est que, par exemple, il y avait des espaces verts, et les espaces verts, je me souviens, c'est anecdotique, mais je pense que la problématique se retrouve partout. Les espaces verts, on jouait au foot dans les espaces verts, et dès qu'on jouait au foot, il y avait une sorte d'association de gestion urbanistique toute puissante qui plantait des piricantas, donc des buissons piquants aux endroits où on jouait au foot. Donc voilà, il y avait une sorte de guerre larvée contre... Je sais pas contre quoi, contre les jeunes, le foot, le bruit, etc. Donc voilà, c'est sous couvert d'une utopie, parce que c'était vraiment une utopie à l'américaine, c'est-à-dire même au début, c'était frappant pour les jardins de devant. Les jardins de devant étaient des jardins d'agrément, où il y avait des jolies essences naturelles achetées au Truffaut, au Jardiland. C'était un peu exotique, c'était très beau. Et surtout, c'était des jardins ouverts. On n'était pas des petits bourgeois qui avaient des jardins fermés. Donc voilà, il y avait cette espèce...
À l'américaine, alors, exactement. Les jardins sont ouverts,
voilà, aussi. Au début, c'était très utopique. Et rapidement, on se rend compte qu'en fait, à l'usage, ça tourne à une sorte d'univers un peu carcéral. Et le souvenir que j'en ai, c'est non seulement il n'y a pas le droit de jouer au foot dans les espaces verts, mais les gens sont équipés d'alarmes, donc ça clignote en rouge dans la nuit. Les gens sont obsédés par les cambriolages, les gens sont obsédés par la présence des cités voisines. Très rapidement, c'est les zones qui vont se mettre à voter pour le Front National. Donc il va y avoir une bascule comme ça, très dure, dans les années 90.
Et en même temps, vous écrivez dans une de vos chroniques au sujet des alarmes dont vous parlez à l'instant. Alors je lis le passage en entier. « Il faut aller regarder ces pavillons si tristes au crépuscule pour les aimer vraiment. Leur façade crépie irradie de bonheur, leurs volets roulants en descendant de façon simultanée donnent l'impression qu'ils s'élèvent doucement sous les pignons des toits. Les alarmes aux yeux rouges s'éveillent comme les oiseaux de nuit. » Et vous ajoutez « On se croirait dans un tableau de Lorrain à la veille d'une grande catastrophe écologique. » Donc ce qu'on retient surtout de cette citation, je crois, Aurélien Bélanger, c'est quand même une forme d'amour pour cet endroit.
Ce que je disais tout à l'heure, c'est le sublime. C'est-à-dire, c'est totalement possible d'en reconnaître les beautés, je les reconnais, mais c'est pas des beautés qui sont désirables, en fait. Voilà, il y a un fond, on sent qu'en fait, ce modèle-là arrive à la fin. Et donc, voilà, c'est angoisse qui me l'a rendu aimable.
Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, Jean-Marc Stébé, avec un œil qui est un œil de sociologue?
Bien, tout d'abord, dire que encore aujourd'hui et depuis le début du XXe siècle, à peu près 80% de la population française souhaite un pavillon avec jardin.
Toujours aujourd'hui, y compris avec la prise de conscience écologique, etc.
Encore aujourd'hui, et on le voit avec la crise de Covid-19, c'est ce qu'on a noté à la fin de notre ouvrage, que les agences immobilières, Seloger.com, etc., notent un engouement pour résider à proximité de la ville, mais à la campagne. On ne veut pas trop s'éloigner de la ville. Donc ça, c'est quand même un point important. Il faut quand même bien noter qu'aujourd'hui encore, en 2016-2020 à peu près, c'est à peu près les mêmes chiffres, on a encore 40% de pavillons qui sont construits, c'est-à-dire à peu près entre 170 000 pavillons qui sont construits par an aujourd'hui.
On construit plus de pavillons que de logements dans des immeubles, que d'appartements ?
Non, pas du tout. Non, c'est à peu près 40%.
Autour de 40%.
40%, et on a sur à peu près 400 000 nouveaux logements par an à peu près. C'est à peu près le chiffre moyen à peu près depuis une vingtaine d'années. On a à peu près 400 000 logements. Donc sur ces 400 000 logements, on a à peu près 41% de pavillons qui sont construits. Mmh. Et aujourd'hui, ça représente, écoutez bien, 20,6 millions de maisons individuelles en France sur 36 millions.
Autrement dit, c'est le sens de l'histoire et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est ça que vous nous dites, Jean-Marc Stébé.
C'est ça. Moi, à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter parce que on voit encore beaucoup de Parisiens, mais de Dijonais, Strasbourgeois, etc., Rennais, etc., qui souhaitent sortir certainement de la centralité urbaine pour aller s'installer à 10, 20, 30 kilomètres à proximité de la ville, mais dans le périurbain.
Alors Aurélien Bélanger, vous expliquez aussi dans l'une de vos chroniques à quel point l'architecture du pavillon est en train aussi d'évoluer. L'architecture que vous avez connue, vous, enfant, n'est plus celle qui préside à la construction des pavillons d'aujourd'hui. Et notamment, vous expliquez que tout se réduit en termes d'espace. Les jardins qui étaient auparavant très grands sont aujourd'hui très petits, à tel point que ça ressemble presque à des appartements avec terrasse maintenant, les pavillons les uns à côté des autres.
Ou des tours qui seraient couchées, en fait, parce que les volumes, on voit ça beaucoup. Si on regarde, c'est très intéressant de regarder les émissions de couples recherche appartement sur M6, ce genre de choses, parce qu'on voit vraiment des espaces qu'on verrait pas. Et là, j'étais vraiment frappé, c'était très petit. Vraiment très petit, c'est pas plus grand qu'un appartement, ça doit faire moins de 100 mètres carrés, mais c'est disposé de telle sorte que ça fait pavillon, donc ça désigne pavillon. Donc on arrive comme ça à truquer sur le propre rêve des gens. Ouais. Et on fait des sortes de demi-espaces, des choses qui sont pas vraiment des balcons, qui sont des jardins, mais vraiment le jardin minimal, il y a de quoi poser un barbecue. Pour vraiment avoir
donc on
le
peut
signe.
Faire un barbecue,
c'est presque de la sémantique.
On peut annoncer aux amis qu'il y a un barbecue qui est prévu.
Comme
mais
toute personne qui a un balcon à Paris s'empresse de mettre une table et dire on va boire des cafés en terrasse. Évidemment on le fait pas, mais voilà, c'est important d'avoir cette sémantique.
Et en revanche, les pavillons des grands-parents conservent un grand jardin et c'est quasiment l'impression de la maison de campagne. Et donc là, on retrouve la campagne dans le périurbain.
C'est qu'il y a ce fantasme, on va tous se retrouver dans la maison de campagne. En fait, aujourd'hui, les grands-parents très majoritairement habitent dans des pavillons. Mais les pavillons, maintenant, ces pavillons, le pavillon, on va dire, des années 70-80, paraissent incroyablement grands par rapport à ce qu'on construit aujourd'hui. Ils ont des sous-sols, ils ont des combles aménagés. Voilà. Mais il faut voir que le début du rêve pavillonnaire, c'est Louveciennes, c'est des entités très bourgeoises, c'est voir la Villa Montmorency. c'est on a essayé de reproduire, d'imiter ce que faisait la bourgeoisie, et donc en le faisant de plus en plus petit. Mais les entités, voilà, les jolis endroits, le beau périurbain, c'est Bougival, par exemple.
De valeur sur cette façon d'habiter, l'habitat dans le périurbain, jugement moral même, Jean-Marc Stébé, sur les gens qui choisissent de s'installer dans ces géographies. Comment l'expliquer ?
Aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de jugements moraux autour du périurbain. On peut l'expliquer par le fait que on a un certain nombre de géographes et d'hommes politiques qui ont caricaturé la périphérie urbaine et notamment le périurbain. Et ont essayé de montrer que dans les zones périphériques, il y avait surtout des pauvres, des familles populaires, des personnes qui votent frontistes, qui votent Rassemblement National. Et donc, cela a donné une image tout à fait négative sur ces territoires périphériques, et par ailleurs aussi parce que ces territoires sont des territoires où on retrouve des centres commerciaux, des espaces de logistique importants, comme on disait tout à l'heure, Amazon et autres, des grands espaces de logistique, donc des espaces qui sont sans vie. Certains ont même parlé de non-lieux, ce qui est une erreur, mais en fait les espaces périurbains ont aujourd'hui, disons, une image négative. Et puis, il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Télérama avait titré, je crois que c'était en 2010, octobre 2010, « Halte à la France moche ». Et cet article, entre autres, mais d'autres articles aussi dans Le Monde et dans d'autres médias, ont essayé de stigmatiser ces territoires. Et aujourd'hui, ben, on a encore une image négative, bien que avec la crise et la pandémie, la crise du Covid-19 et la pandémie, peut-être retrouve-t-elle ces heures un petit peu, on redore un peu le blason de ces espaces.
Est-ce qu'on n'associe pas aussi le périurbain, Aurélien Bélanger, au capitalisme, aux centres commerciaux, Jean-Marc Stébé le disait à l'instant, à la consommation? Il faut prendre sa voiture, il faut en effet dépenser beaucoup de kilomètres, beaucoup d'essence pour vivre dans le confort, parce que c'est ça quand même le projet du périurbain.
Oui, incontestablement. Désolé, encore une anecdote, mais je me souviens, j'avais acheté, je sais pas, quand j'avais 13-14 ans, un magazine qui s'appelait Toutes les voitures de l'année, où il y avait toutes les voitures de l'année, et j'avais découpé toutes les voitures pour les agrafer au mur de ma chambre. Et il y a cette espèce, c'est quand même un lieu, alors que dans le fond, je m'intéresse pas tant que ça aux voitures, mais c'est un lieu où, par exemple, le culte individualiste et un petit peu viriliste de la voiture fait floresse, où le RER, c'est quand même un truc pour les pauvres, et la voiture est un gage comme ça de liberté. Et il y a toute une sous-culture, donc on a pu voir.
Vous direz qu'il y a une sous-culture géographique du périurbain.
Au bout d'un moment, c'est une culture un peu caricaturale. Et au bout d'un moment, des gens qui ont grandi en périurbain se sont mis à la réutiliser et à en faire une sous-culture. On a vu ça. Bon, c'est plutôt pour la campagne peut-être, mais le tuning est devenu une activité à haute valeur ajoutée artistique, alors qu'elle était socialement très dégradante. Et donc voilà, le périurbain, ce qu'on disait, les Buffalo Grill aujourd'hui sont presque un objet de culture partagée, et les gens en parlent avec émotion et pas avec une sorte de mépris de classe. Mais effectivement, ce côté, la seule vraie nature qu'on a vue, c'est d'aller acheter des fontaines télécommandables chez Nature et Découverte. Tout ça, voilà, tout ça existait. On n'allait pas aux États-Unis, mais on allait dans des jeaneries acheter avec des tenues d'Indiens. Voilà.
Mais il y a une fierté aussi, peut-être, de cette façon de vivre, tout simplement.
Disons, l'américaine, pour caricaturer. On était au cœur. On était au cœur de. On était vraiment dans le monde de Debord. On était au cœur de la refabrication spectaculaire du réel. Tout ça était totalement faux, et en même temps. C'est là où le capitalisme parlait le plus franchement aux hommes, parce que disons que si tout le monde est aliéné, la classe moyenne et les prolétariats sont plus lucides vis-à-vis de leur aliénation que les gens qui peuvent vivre dans un monde dans les centres-villes de ville, pour le dire simplement, dans un monde d'illusions. Là il y a pas trop d'illusions en fait.
Ouais. Il y a une de vos chroniques aussi qu'on peut retrouver dans le livre France chez Gallimard sur les hypermarchés, et vous dites que savoir distinguer un supermarché d'un hypermarché a sans doute été aussi important pour vous que de distinguer une basilique et une cathédrale pour un pèlerin du Moyen Âge. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Aurélien Bélanger?
Bah, ça fait vraiment partie d'un apprentissage du monde. C'est la maîtrise de cet endroit, et effectivement, qui jouait totalement un rôle cultuel, dans la vie, avec exactement comme
cultuel, hein, vous dites, ou culturel.
Oui, non, vraiment cultuel. Ah, ça faisait l'objet d'une sortie. Et moi, je me souviens quand un carrefour géant s'est construit près de chez moi, j'étais vraiment content, mais sans aucune raison. Et quand en plus il a été dédoublé d'une galerie marchande recouverte de verre, j'étais fou de joie.
C'était de la fierté ou c'était quoi?
C'était, oui, c'est intéressant. C'était en partie de la fierté. Il y avait un côté, nous aussi, on a le droit à un hypermarché. Voilà,
on a le droit à avoir une tour, comme aux États-Unis. On a le droit d'avoir un grand hypermarché.
On est suffisamment important commercialement. Moi, le deuxième plus grand carrefour de France, c'était à 10 km ou 15 km de chez moi. Et c'était à la fois absurde de voir vraiment, comme dans une étude de perspective, on voyait les caisses comme ça qui fondaient à l'infini, il devait y avoir 100 caisses d'affilée. Et c'était à la fois une sorte de fierté bizarre. Mais c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup. Je voyais l'autre jour sur un compte Twitter, tout le monde se mettait à revendiquer le machin moche célèbre qu'il y avait près de chez lui. Il y avait celui qui avait un sanglier géant sur un rond-point, il y avait celui qui avait, voilà, cette espèce de...
aussi de la culture locale.
Exactement, cette espèce de sous-culture de ces endroits qui ont été des lieux de relégation. Et en arrière-fond, et c'est là où ça devient totalement passionnant, c'est que ces lieux accèdent enfin à l'existence politique avec les Gilets jaunes. Et que d'un coup, comme si tout était là, et que d'un coup ça cristallisait sur les ronds-points, qui est le lieu même du non-lieu. Oui.
Et alors vous avez quand même découvert aussi un peu l'envers du supermarché, parce que vous avez travaillé à un moment donné dans les rayons des supermarchés. Et à la fin de la journée, quand vous preniez le café avec vos collègues, c'était servi au sous-sol, dans des grandes bassines d'eau chaude, et on vous servait avec une louche.
Exactement, donc, comme dans une représentation presque d'une scène d'esclavage dans le monde antique.
Ouais. Est-ce que ça vous fait regarder le périurbain, ou ça n'a rien à voir peut-être avec le périurbain, on parle peut-être d'un autre sujet, mais est-ce qu'il y a un envers aussi pour vous?
L'envers, en fait, il est très très facile à trouver, c'est que tout supermarché a sa face commerciale, du côté parking bizarrement, et a sa face compacteur à ordures, citerne de fuel pour les pannes d'électricité, etc., et ces objets, et je pense l'essence même de l'architecture est là, c'est que c'est à la fois une façon de montrer, une façon de dissimuler. Et c'est hyper intéressant d'aller voir derrière. Donc c'est vrai que quand on est employé de ces endroits, on va voir derrière et on se rend compte que c'est des endroits qui génèrent du déchet et qui brûlent du carbone. Et d'un coup, c'est très intéressant d'assister à leur ambivalence.
Jean-Marc Stébé, le périurbain, c'est aussi ces zones d'ambivalence, c'est l'artificialisation des sols, c'est 60 000 hectares de terres agricoles qui disparaissent chaque année.
Oui, tout à fait. Et tout à l'heure, Aurélien Bélanger disait que aujourd'hui les pavillonnaires étaient de plus en plus petits. Ben, c'est une des raisons pour lesquelles les pavillons ont une surface beaucoup plus restreinte en termes d'espace habitable et en termes d'espace extérieur de jardin, parce qu'aujourd'hui le credo des politiques publiques, c'est la densification. Et donc on veut justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur freiner le front urbain. C'est aujourd'hui justement éviter qu'il y ait trop d'artificialisation des sols, trop de bitumisation, de bétonisation, parce qu'aujourd'hui c'est une catastrophe écologique.
Donc tout le monde est d'accord alors sur ce constat, ça veut dire qu'il faut éviter que le périurbain s'étende trop?
Je pense que oui. Aujourd'hui, pour avoir fait de nombreuses études au niveau des communautés urbaines, des communautés de communes, des communautés d'agglomération, les trois grandes entités aujourd'hui de regroupement des communes, des 34 960 communes, eh bien, on peut voir que il y a aujourd'hui, disons, un credo commun freiner l'urbanisation. Alors, il y a encore quelques maires qui accèdent aux demandes des habitants, mais on va accéder aux demandes des habitants en proposant justement des pavillons en bande aujourd'hui, donc non plus des jardins, la maison environnée de jardins. On va proposer des maisons, deux maisons sur l'une au-dessus de l'autre.
Donc ça ressemble à des maisons de ville en réalité, du 19e siècle.
Tout à fait, oui, un petit peu, voilà, où on va construire un immeuble et puis on va mettre une ou deux maisons sur la terrasse, par exemple. Hein, ça se fait beaucoup, hein, les architectes aiment beaucoup, et en plus de ça, la maison est désaxée par rapport à la façade. Hein, on le voit en région parisienne, pas beaucoup. Donc on voit aujourd'hui, on recherche aujourd'hui, et les pays nordiques et l'Allemagne entre autres, ont cette politique de densification, mise en place depuis plusieurs décennies.
Et à l'étranger, comment ça se passe? Oui. Est-ce qu'il y a une spécificité française? On va parler peut-être des États-Unis un petit peu plus tard, mais déjà au sein de l'Europe, est-ce qu'il y a une spécificité française du périurbain, Jean-Marc Stébé?
Pas tellement, sauf que on essaie de densifier beaucoup plus fortement en Allemagne, dans les pays du Nord, plus que peut-être dans les pays latins du Sud. Mais il y a, moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est une sorte, le pavillon, c'est assez universel. Alors en Europe, mais pour avoir voyagé dans de nombreux pays du monde, par exemple en Malaisie, en Afrique du Sud, en Namibie, on a des zones pavillonnaires à l'extérieur des villes. Et ça, si on regarde par exemple la Thaïlande, la banlieue de Bangkok, on n'a pas cela en France, on a cela aux États-Unis. C'est des milliers de pavillons monotones avec des rues et des pavillons en bande sur des kilomètres et des kilomètres.
Alors, aux États-Unis, justement, allons-y, et dans la ville qui est la reine du périurbain, ça n'est jamais qu'un grand amas périurbain, enfin, je ne sais pas comment il faudrait le dire, c'est Los Angeles.
Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange.
9 août 1941. J'ai l'impression d'être enlevé à ce siècle. C'est Haïti en forme de métropole. En ce moment, justement, j'ai vu sur un jardinet avec gazon, arbustes aux fleurs rouges, un palmier et des chaises de jardin blanches. Et une voix d'homme chante quelque chose de sentimental au piano, pas à la radio. Ils ont la nature ici. Comme tout est tellement artificiel, ils ont même un sentiment renforcé de la nature. Elle en est distanciée. De la maison de Dieterle, on voit la Fernando Valley. Un fleuve ininterrompu d'automobiles radieusement illuminés se fraye un passage à travers la nature. Mais on apprend que toute la verdure n'est arrachée au désert que par l'irrigation. Gratte un peu et le désert réapparaît. Ne paie pas la note d'eau et rien ne fleurit plus. 21 août 1942. Parfois, surtout en allant en auto à Beverly Hills, je distingue quelque chose comme des traits de paysage qui font un effet, à proprement parler, séduisant. Lignes de collines douces, buissons de citronniers, un chêne californien, et même telle ou telle station d'essence qui est réellement amusante. Mais tout cela installé comme derrière une vitre. Et je cherche involontairement sur chaque chaîne de colline ou sur chaque citronnier une petite étiquette avec le prix. Cette étiquette, on la cherche aussi sur les humes. La coutume veut ici qu'on cherche à tout vendre, d'un haussement d'épaule à une idée, c'est-à-dire on doit constamment se préoccuper du client. Ainsi est-on continuellement vendeur ou acheteur. On vendrait quasiment son urine à la pissotière.
Lecture d'un extrait de Journal d'Amérique du metteur en scène et écrivain allemand Bertolt Brecht. C'est un texte de 1941. Lui-ci par Aliette Ovine, qu'il faut peut-être prendre aussi avec des pincettes, Jean-Marc Stébé. Mais est-ce que vous avez le sentiment que le modèle Los Angeles, c'est précisément un petit peu la même chose que le périurbain en Europe?
Peut-être pas tout à fait. Le modèle américain est issu de... On a essayé de le reprendre, hein, The American Dream, hein, le rêve américain, la voiture, hein, comme on disait tout à l'heure, la maison avec en plus la nature. tout à l'heure, on n'a peut-être pas assez appuyé, c'est quand même la voiture, et donc les Américains sont les premiers à disposer des voitures. Rappelons simplement un chiffre qui peut éclairer un peu le propos. 83% du stock mondial d'automobiles se trouve en 1924 aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'ils sont moteurs. Hein. Tout à l'heure, on parlait de Ford. Effectivement, la société Ford de construction de voitures va inonder le marché américain avant la guerre de voitures. Et c'est grâce à la voiture que l'on va pouvoir construire sa maison loin de la ville. Et donc, le périurbain américain, c'est le résultat de l'expansion de la voiture.
Donc de la volonté d'aller vivre à la campagne, mais évidemment la campagne au fur et à mesure est grignotée et existe de moins en moins, ce qui fait dire que le programme autoroutier anéantit l'air même de liberté que l'automobile personnelle promet de leur conserver. Ça, c'est un historien, Lewis Mumford, qui l'écrivait déjà en 1958. Donc il y a quand même un paradoxe là, Jean-Marc Stébé.
Oui, effectivement, y a un paradoxe. On va de plus en plus loin aujourd'hui, et vous preniez l'exemple de Los Angeles. Hein, aujourd'hui, la ville, quand on la regarde, elle va du Pacifique au désert de Mojave, et elle va jusque San Diego. Et pour y être allé à plusieurs reprises, on a été visiter une sorte de gated communities à plus de 100 kilomètres au sud-est de Los Angeles. Là, au milieu du désert, à peu près 12 km carrés, à peu près, on a 4500 pavillons pour les classes aisées, avec piscine, etc. Et on est au milieu du désert, ce qui est absolument aberrant. Et pour y aller, on prend les freeways, les highways, etc., les autoroutes américaines. Et aujourd'hui, c'est un agglomérat d'autoroutes disons Los Angeles, et il y a 20 ans, 25 ans à peu près, au début que j'étais étudiant, eh bien, je peux vous dire que la ville de Los Angeles, c'était absolument pas pour les piétons. Mmh. Et j'ai fait mes études à Nanterre, et mon professeur Roncaiolo, un grand géographe, nous disait toujours, si vous voulez marcher à Los Angeles, allez à Disneyland. Oui. Voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, peut-être, Jean-Marc Stébé, de Broadcast City, qui était un petit peu le rêve de l'architecte américain Frank Lloyd Wright, de mettre précisément la ville à la campagne?
Oui, Broadcast City, c'est effectivement Frank Lloyd Wright, un projet entre les deux guerres. C'était en fait, il n'existe pas de ville, il existe que de la campagne. On a un territoire immense et donc on va pouvoir donner à chaque famille une ferme, homestead, à chaque habitant, et ils pourront avoir quelques acres de terrain pour le cultiver.
Pour être autosuffisant.
Pour être autosuffisants, et ils auront leur voiture. Il y aura effectivement des centres, pas des centres-villes, mais des regroupements d'industries, les écoles, les hôpitaux, les universités, etc. Mais il était fou de la voiture. Et donc il ne va penser sa maison loin de la ville, complètement dans la nature, et la recherche complète de la nature sauvage. C'est vraiment son projet.
Et pourquoi
son projet
n'a pas fonctionné, alors, au fond? Parce qu'il n'y a pas tellement de villes qui soient réellement à la campagne, comme lui le proposait, c'est-à-dire, en fait, une grille très peu dense, où il y a toujours un petit peu des maisons, mais en même temps, jamais trop, pour qu'on ait toujours l'impression d'être à la campagne, et des services qui soient proches, pour qu'on puisse quasiment rester dans un périmètre d'un quart d'heure. C'est la fameuse aussi ville du quart d'heure dont on a entendu parler encore il y a peu de temps. Pourquoi est-ce que ça n'a pas vraiment fonctionné selon vous, Jean-Marc Stébé?
Je pense que les personnes et les individus sont plutôt attirés vers la centralité et toutes les aménités de la centralité. Et dans le projet de Frank Lloyd Wright, il n'y a pas forcément beaucoup d'aménités à proximité. Donc on est toujours obligé de se déplacer. C'est un repli individualiste assez important quand même, de vivre tout seul dans sa ferme avec personne à quelques acres autour. C'est quand même assez monotone et assez individualiste. Et donc, les personnes préfère être proche des aménités. C'est un peu ce rêve qui est, disons, difficile à réaliser. Être près des aménités et en même temps près de la nature, vous comprenez. C'est pas facile à concilier les deux.
Quand on regarde la façon dont les quartiers de gare sortent autour du Grand Paris Express, la question peut se poser de savoir si on est en train ou pas de basculer d'un modèle politique à un modèle marchand. Ville organisée par la politique à un modèle de ville organisée par le marché. Ce qui peut laisser penser ça, c'est que les habitants n'ont pas beaucoup leur mot à dire, qu'on voit un peu partout des mouvements se créer de défiance. Mediapart s'est récemment fait l'écho de tout ce qui se passe autour du centre-ville d'Aubervilliers, par exemple. On a ça à HL, il y a eu plein d'endroits dans la région parisienne où les habitants sont inquiets. Moi, je me souviens encore là d'une habitante de Vitry-sur-Seine qui dit, moi, le métro, ça m'effraie, le tramway, ça m'effraie. Et un voisin à elle enchaîne en disant, non, mais on a bien compris, de toute manière, ils sont en train de refaire la ville belle, mais si c'était pour nous qu'ils le faisaient, ils l'auraient fait avant. Ils font la ville belle parce qu'il faut accueillir les Parisiens. Les Parisiens, ils viendront pas dans une ville moche. Donc on nettoie la ville pour que les Parisiens viennent. La plus grande pente s'impose dans l'esprit des gens. Et ils voient ce qui se passe autour des quartiers de gare, et ils voient les quartiers où les nouveaux promoteurs arrivent, et ils se disent que ce qui est en train de se passer va les évincer. C'est un jeune d'Ivry-sur-Seine qui dit « On a compris, hein, de toute manière, Paris a été racheté par les Qataris, donc les Parisiens, ils ont plus le moyen de rester à Paris, ils viennent en banlieue, et nous, on va aller, après Villeneuve-Saint-Georges, dans le 77 ou dans le 60. » Ce modèle-là de la ségrégation, de la relégation, de la gentrification, il est installé dans les têtes.
Aurélien Bélanger, comment est-ce que vous voyez l'avenir proche de ces endroits ? Est-ce que on va vers une ville qui va finir au fur et à mesure par absorber ce périurbain pour pouvoir conserver ce qu'il reste de réellement rural? Qu'est-ce qui va se passer selon vous?
Si on change d'échelle et on s'en rend bien compte, si on échange la marche contre le vélo par exemple, c'est-à-dire si on fait 100 km au lieu de faire 10 km, le pavillon c'est le village et en fait on passe, la ville à la campagne existe déjà. La France est intégralement urbanisée depuis le Moyen-Âge, c'est un des pays les plus urbanisés du monde. Il y a des grands espaces verts.
Et en même temps, un
verts.
Grand pays où il y a quand même beaucoup d'endroits vides.
Il y a beaucoup d'endroits vides, mais disons qu'ils sont jamais à plus de... Il suffit de partir sans eau à boire, ni sans nourriture.
On
meurt pas de faim en France parce qu'on tombe sur le prochain village, etc. Donc on peut considérer que l'intégration métropolitaine lâche, cette espèce de fantasme de ville à la campagne, est déjà accomplie dans cette espèce de spécificité française, que c'est un pays assez également peuplé. Et il y a eu effectivement cette anomalie au cours du second XXe siècle, avec la fabrication de très grosses métropoles, mais on voit que pour plein de raisons, elles se relâchent un petit peu. Et je pense qu'on va retendre à une sorte d'équilibre comme ça, territorial.
Et la lutte des classes qu'on entendait aussi dans cet extrait, c'était Frédéric Gilly, un économiste qui parlait dans LSD sur France Culture en 2018, c'est aussi dans le périurbain que ça se passe.
Disons que la lutte des classes et la crise des gilets jaunes l'a profondément montré, est vraiment un problème de centralité. Il y a les puissants qui occupent les centres et les autres qui occupent les périphéries. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a peut-être des possibilités de pas refuser la lutte des classes, mais de jouer un autre jeu, et qu'il y a des opportunités entre guillemets, sans aller jusqu'à la ZAD, mais il y a des possibilités d'occupation dans des endroits où le foncier n'est pas cher, pour créer des modèles de société alternatifs. Et on voit qu'en fait, on va être dans un jeu plutôt de désintégration ou de polycentrisme politique, je pense, parce que sinon ça va être totalement invivable.
Il y a une de vos chroniques qui s'appelait justement La lutte des classes. Vous évoquiez votre dernière manifestation, c'était le 1er mai 2002. Vous aviez quitté le cortège assez tôt, Aurélien Bélanger, avant d'arriver à la Bastille pour acheter une Pléiade. Et puis après, vous étiez retrouvé dans une usine transformée en centre d'escalade. Et là, vous êtes rendu compte que c'était aussi un lieu de la lutte des classes.
Oui, exactement. Mais j'ai remanifesté depuis contre l'extrême droite il y a quelques mois. Donc ça va,
D'accord.
Je suis en renaissance politique.
Mais ce que vous vouliez dire, c'était que, y compris dans les centres urbains, il y avait à la fois, voilà, les gens de l'Est parisien qui habitent dans l'Est parisien, mais parce qu'ils auraient préféré habiter ailleurs.
C'est quand même, il faut quand même faire attention à ça, parce qu'il y a toujours le procès du gentrificateur, du méchant gentrificateur. Le méchant gentrificateur, c'est pas un bourgeois, c'est quelqu'un qui appartient à la classe moyenne et qui a été chassé des centres-villes parce qu'il a plus les moyens, parce qu'il y a une concentration du capital telle que celui qui était entre guillemets l'ennemi de classe il y a 50 ans, aujourd'hui, il n'est pas... c'est pas qu'il n'est pas méchant ou pas méchant, c'est que le gentrificateur est une victime comme les autres d'un zoning urbanistique un peu tendu.
Ouais. Ouais, mais l'idée de la centrifugeuse, c'est une idée à laquelle vous adhérez. Et au fur et à mesure, moins on a d'argent et plus on est envoyé loin des centres urbains.
A priori, oui, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre.
Ouais. Ouais. Où est-ce qu'on peut se réfugier alors? Dans le Perche?
Ouais, voilà, dans un département fictif comme le département du Perche, quoi.
Écoutez, merci beaucoup. On va y réfléchir. Aurélien Bélanger et Jean-Marc Stébé, vous restez avec nous puisque on retrouve à présent Romain de Bec de Lièvre. Bonjour à vous, Romain.
Mathieu, bonjour à tous.
Et on ouvre grâce à vous la pièce jointe de Sans oser le demander.
Déplacer la ville à la campagne, certains l'ont peut-être rêvé, un homme l'a fait, et cet homme, c'est Luc Moulet, cinéaste désopilant, apparenté à la nouvelle vague. Le rêve a pris avec lui en 1994 les contours clairs et distincts d'un film pour la télévision qui porte un titre non moins clair, Infi, capitale de la France. Le constat de Moulet est sans appel, Paris est devenu, je cite, le cancer de la France, une autre ville énorme, tentaculaire et située beaucoup trop au nord du pays. Elle ne convient plus, cette aberration urbaine, géographique et politique doit cesser. Il faut déplacer Paris, déplacer la capitale vers la campagne, comme Canberra en Australie ou Brasilia au Brésil.
Pour éviter la confusion entre le pouvoir et la loi du plus fort, la plupart des pays importants ont choisi pour capitale une ville pas trop grande.
La voix de Luc Moulet, mais alors où installer la nouvelle capitale de la France? Dans quelle zone rurale implanter un nouveau centre urbain? Moulet décide de partir sur les routes pour trouver le lieu parfait, le port idéal susceptible d'accueillir une ville du futur, une capitale de la France enfin respirable. Avec camionnette et caméra, il atterrit d'abord dans le département de la Nièvre, sur les territoires de la commune d'Infi, à quelques kilomètres de Nevers. Mais pourquoi Infi? Parce que la petite ville est située près du centre à peu près pur et parfait de la France.
Ah bah c'est ça, parfait, au poil, et descendez.
Bah un fille, moi je trouve que c'est parfait parce qu'il y a plein de place. Le Sénat, on va le mettre là.
On entend Luc Moulet arriver à Infi avec son acolyte Antonietta Pizzorno, celle qui paraissait déjà à ses côtés dans son film sur le couple Anatomie d'un rapport. Ils imaginent sur quel sol poser les emplacements des futurs bâtiments publics et institutions de la nouvelle capitale. Le ministère des Finances s'implanterait très bien sur l'affluent de la Loire, tout comme Bercy sur la Seine, et le ministère de l'Intérieur trouvait la place parfaite au milieu d'un champ où pour l'instant pèsent de paisibles vaches blanches. Mais très vite, Infi ne convient plus, on pourrait même dire qu'Infi ne suffit plus. Moulet et Pizzorno s'enguirlandent sur le choix des lieux, la dispute amoureuse et administrative les mène ainsi vers le sud, dans le Causse-Comtal aveyronnais, puis dans l'Hérault, en bordure de Méditerranée. Mais jusqu'où iront-ils? Je laisse le suspense croître. Ce qu'il y a de beau dans Infi, capitale de la France, en plus de son comique génial, c'est la dimension cachée de western discret. En effet, tout au long de son film, on voit Luc Moulet chercher des terres vierges pour y implanter sa capitale à venir. Le cinéaste scrute quels seraient les grands espaces incultes et sauvages de la France, des lieux où poser la frontière ou les fondations d'une nouvelle ville. Il rejoue ainsi comiquement l'épopée du Grand Ouest à l'intérieur de la campagne française.
Merci Romain de Bec de Lièvre. On pourrait penser à l'artiste Bublex aussi, qui fait des villes comme ça très imaginaires. Votre chronique, on peut la retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Et puis vous pouvez également télécharger cette émission sur ces deux mêmes et par ces deux mêmes moyens. Émission d'aujourd'hui, mais aussi toutes les émissions depuis le début de la saison septembre et le début de Sans oser le demander. aujourd'hui, on s'est demandé si on pouvait mettre la ville à la campagne. Je renvoie pour plus de détails sur le Que sais-je consacré à la France périurbaine, écrit par Hervé Marchal et Jean-Marc Stébé. Je renvoie aussi au recueil de chroniques d'Aurélien Bélanger intitulé La France et publié chez Gallimard, sans oublier son dernier roman, ses téléréalités, et c'est chez le même éditeur.